René Descartes, Discours de la méthode, 1637. Ce texte est un texte technophile, c'est-à-dire qu'il donne une vision très optimiste de la technique et de ce qu'elle va permettre à l'homme de produire. Descartes est en effet un auteur du XVIIe siècle. Ce n'est pas simplement un philosophe, mais comme c'est le cas généralement à l'époque, c'est d'abord un scientifique dont une partie de l'œuvre, en fait, est une œuvre de réflexion philosophique. Le XVIIe siècle, c'est en effet un grand siècle de science, un grand siècle de révolution scientifique. C'est le siècle de Pascal, c'est le siècle de Newton, et Descartes aura, lui, plutôt une influence dans le domaine des mathématiques, contrairement à Pascal qui a aussi produit une œuvre intéressante en physique et évidemment Newton en physique. Quand on présente Descartes dans les dictionnaires ou autres, généralement on le présente comme un mathématicien et philosophe français. Mais à l'époque de Descartes, le mot philosophe désignait en réalité un savant bien plus large que les philosophes aujourd'hui. En effet, philosophie à cette époque signifiait tout bonnement ce que signifie aujourd'hui pour nous le mot science. Car si aujourd'hui le savoir s'est diversifié en de nombreuses sciences, ce n'était pas le cas à l'époque de Descartes, et c'est pourquoi la plupart des philosophes de cette époque sont aussi de grands scientifiques. Donc, quand les auteurs du XVIIe siècle utilisent le mot philosophie, dans votre tête, traduisez par science. La preuve de cela, c'est le titre de la grande œuvre de Newton, Les principes de la philosophie naturelle. C'est là qu'il énonce le gros de ses importantes théories en physique, et pourtant, dans le titre, ça n'est pas le mot physique qui est utilisé, c'est le mot philosophie naturelle, autrement dit, science de la nature. Autre preuve du fait que philosophie à l'époque signifie science, vous avez encore aujourd'hui aux États-Unis les doctorats, donc les diplômes de doctorat, s'appellent des PhD, et PH signifie philosophie. Donc tous les docteurs, tous les grands scientifiques, tous ceux qui ont un diplôme de doctorat aux États-Unis sont des docteurs en philosophie spécialisés dans une branche de la philosophie, entre guillemets. Pour cette raison, je vais vous demander d'écrire le mot science, donc de prendre le texte et d'écrire le mot science au-dessus des deux occurrences du terme philosophie à la première ligne du texte. Je vais également vous demander d'écrire le mot théorique au lieu de spéculative. Et enfin, je vais vous demander d'écrire au-dessus du mot école le mot université. Et ça va nous donner une sorte de traduction un petit peu modernisée du texte de Descartes. Au lieu de cette science théorique qu'on enseigne dans les universités, on peut en trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les actions du feu, etc., etc. Vous voyez donc que ce texte repose sur une opposition entre la science théorique et la science pratique, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la science appliquée. Et là, ça nous renvoie au domaine de la technologie, puisque le mot technique n'est pas dans le texte. Je vous dis que c'est un texte sur la technique, mais en fait le mot technique n'est pas dans le texte, mais il est impliqué, il est là implicitement, dans cette notion de science pratique ou de science appliquée. Et par ailleurs, on pourra souligner dans le reste du texte tout le champ lexical de la technique, comme l'expression les divers métiers de nos artisans à la ligne 3. Tous les usages à la ligne 4, ou encore invention à la ligne 5 ou artifice à la ligne 6. Donc il y a bien une opposition science théorique, science appliquée dans ce texte. Mais on voit que la science appliquée, elle n'existe pas encore. C'est ce à quoi Descartes aspire dans ce texte. La science qui existe, c'est une science pour l'instant purement théorique. C'est celle qui apporte la connaissance sur les lois de la nature, notamment, comme on le voit à la ligne 2. Je cite, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent. Donc, à travers cette citation, on voit bien que c'est beaucoup plus particulièrement la science physique à laquelle Descartes fait ici référence pour développer la science appliquée dont il rêve et qui est l'objet de ses vœux. La science pratique aurait pour finalité de donner à ses connaissances, qui sont des connaissances purement théoriques sur les lois de la nature, donc de leur donner une autre dimension en les utilisant pour la production d'objets intéressants, d'objets utiles aux êtres humains. Donc, récapitulons l'idée de cette première partie du texte. Descartes propose de remplacer, hein, c'est l'expression « au lieu de », elle met en évidence une volonté de remplacement. Donc, Descartes propose de remplacer la science qui est celle de son époque et qu'il estime trop théorique, c'est-à-dire trop tournée vers la connaissance pour la connaissance, hein, vers la pure connaissance, par une science pratique, c'est-à-dire une science qui va certes développer des connaissances, mais dans un autre but que la pure connaissance. Et ce but, il est pratique, or je rappelle que pratique, ça signifie ce qui a un rapport à l'action. Il faut donc pour Descartes que nos connaissances deviennent les auxiliaires de nos actions, de nos actes. La connaissance pure, d'une certaine manière, elle nous laisse passifs vis-à-vis de la nature. Or, ce que semble souhaiter Descartes, c'est que nos connaissances nous rendent cette fois-ci actifs vis-à-vis de la nature. Il s'agit de provoquer un retournement de situation où ce n'est plus nous qui sommes soumis aux lois de la nature, mais c'est nous qui soumettons les lois de la nature à nos propres désirs et à nos propres fins. Cette idée, elle est contenue dans l'expression extrêmement connue, qui est vraiment une citation que vous pouvez sortir de ce texte et que tout correcteur de philosophie connaîtra, nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Cette expression est à la fin de la ligne 4 et au début de la ligne 5, vous pouvez la souligner, l'encadrer, parce qu'elle le mérite. Et on peut remarquer la première chose ici dans cette expression, c'est vraiment ce côté retournement de situation. Qui est normalement maître et possesseur de la nature? Eh bien normalement, le maître et le possesseur de la nature, c'est Dieu. Je rappelle qu'on est dans un contexte où le christianisme est extrêmement fort et aucun scientifique et aucun philosophe ne remettra encore à cette époque l'idée que Dieu existe ou que Dieu est possesseur de la nature, mis à part Spinoza, un auteur qui d'ailleurs sera fortement condamné pour avoir exprimé une pensée relativement athée et remettant en cause la religion. Spinoza était un auteur juif. Donc ici on peut être quand même au premier abord étonné par le fait que c'est l'être humain qui, d'une certaine manière, grâce à sa science pratique, à ses connaissances, va devenir en quelque sorte un petit dieu qui utilisera les lois de la nature à son profit. Or, en général, quand des êtres humains tentent de s'égaler à Dieu, c'est le cas par exemple dans l'épisode de la tour de Babel dans l'Ancien Testament, ça se passe mal pour les êtres humains. Dieu se met en colère et punit très fortement les êtres humains de s'être, non pas de s'être rebellés, mais d'avoir essayé de conquérir une place qui n'est pas la leur. Mais vous remarquerez que Descartes ne dit pas devenir maître et possesseur de la nature, mais devenir comme maître et possesseur de la nature. Ce petit comme il est important puisqu'il permet d'atténuer le propos et de le nuancer. Il ne s'agit pas pour l'homme de devenir Dieu ou de s'égaler à Dieu, mais en quelque sorte de lui ressembler dans certaines de ses actions, sans devenir lui-même Dieu, ce qui serait très abusif. Résumons donc ce que nous avons vu jusque-là. Descartes propose de remplacer une science qu'il estime trop théorique, trop portée sur la connaissance pour la connaissance, par une science qui sera plus pratique, c'est-à-dire qui utilisera les connaissances afin que l'homme puisse maîtriser la nature et utiliser les lois de la nature à son profit. Reste donc à savoir, et ce sera le propos de la dernière phrase du texte et de la dernière partie du texte, à quoi va bien pouvoir servir cette maîtrise des forces de la nature. Dans la dernière phrase du texte, Descartes va donc mettre en évidence deux domaines dans lesquels la maîtrise des forces de la nature sera particulièrement intéressante. Le premier domaine, c'est le domaine purement technique, de production d'objets techniques. Ici, c'est le terme « artifice » qui est utilisé, « invention » et « artifice ». Alors, vous me direz peut-être qu'on n'a pas attendu Descartes et le XVIIe siècle pour produire tout un tas d'objets techniques qui ont permis aux êtres humains de développer leur agriculture, de se construire des maisons, des villes, d'élaborer des œuvres architecturales assez incroyables sur le plan technique, comme le pont du Gard par exemple, un aqueduc romain qui est encore aujourd'hui debout après 2000 ans d'existence. Donc on n'a pas attendu le XVIIe siècle. L'idée de Descartes, c'est que des progrès plus grands dans les sciences seront aussi le gage de progrès plus rapides et plus intéressants sur le plan technologique. Mais surtout, Descartes évoque un autre domaine où, par contre, les progrès sont assez lents. C'est le domaine de la médecine. La médecine n'est pas à l'époque de Descartes considérée comme une science, elle est plutôt un art, et d'ailleurs si on pense aux figures des médecins dans les pièces de Molière, donc Molière c'est aussi le XVIIe siècle, les médecins sont un peu des charlatans qui ne sont pas très savants et qui ne font que proposer, ne proposent que des saignées à leurs patients. Donc il s'agit d'une technique qui repose grosso modo sur des théories très anciennes issues de l'Antiquité, donc qui ont quand même 2000 ans d'existence, et mélangées à des croyances spirituelles ou en accord avec la religion de l'époque. Donc on voit ici que l'objectif de Descartes, c'est de faire de la médecine une véritable science, s'appuyant sur une biologie plus forte, puisque bon, c'est un peu pareil, hein, la biologie à l'époque de Descartes, c'est une science qui est à l'état un peu embryonnaire. Et cette relative défaillance de la médecine peut être considérée comme un frein au progrès humain, car elle laisse finalement l'être humain sous l'emprise et la domination de la nature, toujours soumis finalement à ces dangers que représentent les maladies, les microbes, et qui sont trop mal connus par les êtres humains pour qu'ils puissent s'en protéger et s'en défendre. Et c'est donc pour cela qu'on peut dire que ce texte est un texte technophile. Le développement des techniques est vu par Descartes comme permettant aux êtres humains de progresser dans leur maîtrise de la nature, et en progressant dans la maîtrise de la nature, ils pourront s'en défendre et s'en protéger, évidemment grâce à l'invention d'un certain nombre d'objets techniques augmentant le confort et la commodité de l'être humain, mais aussi par le développement de la médecine permettant de vivre en santé, en meilleure santé et plus longtemps. Cependant, ce développement des techniques ne peut passer que par une transformation de la science et de notre rapport à la connaissance. La connaissance ne doit plus être considérée comme un but en soi, mais comme un moyen au service d'une fin qui est tout simplement une meilleure vie pour les êtres humains, une vie plus agréable, plus confortable, plus longue et en meilleure santé.